L'évangile présenté dans la Bible est-il suffisant pour notre salut? Devons-nous obéir à la loi de l'Ancien Testament? Est-ce que nos bonnes actions suffisent à faire de nous de bons chrétiens? Si Christ nous a libérés, est-ce qu'on ne peut pas vivre comme bon nous semble? Alors ces quelques questions sont un peu provocantes, j'en conviens. Ce sont des questions auxquelles que vous êtes peut-être déjà posées, ou pas. Mais en tout cas, auxquelles la Bible répond sans ambiguïté. Et une épître de Paul en particulier nous permet de répondre à ces questions, entre autres. Il s'agit de l'épître aux Galates. Alors au cours des prochains mois, nous vous proposons avec Paul... pas l'apôtre, mais Paul le blé, de parcourir cette épître aux Galates au cours d'une série de plusieurs prédications. Alors, on ne va pas parcourir l'intégralité de cette épître, mais on va en voir les principaux textes, en tout cas les textes les plus emblématiques. Être déclaré juste, vivre par la foi, être libre en Christ, être conduit par l'Esprit, tout ça, ce sont des thèmes qui sont abordés dans l'épître aux Galates. Et nous découvrirons ou redécouvrirons tout cela ensemble. Et ce matin, alors je vous propose de commencer par le tout début de l'épître aux Galates, avec le tout début du tout premier chapitre. Dans le texte que nous allons lire, il est question de l'Évangile, c'est-à-dire de la bonne nouvelle de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Et le temps de communion, de Sainte-Cène que nous venons de vivre, bien sûr, nous permet de nous rappeler du contenu et du fond, vraiment, de cet évangile pour nous. Nous allons voir que si les Galates ont eux-mêmes cru à cette bonne nouvelle, au moment de leur conversion, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, les choses n'ont, hélas, pas tardé à tourner mal pour eux, et on va voir pourquoi. En appliquant cela à nous-mêmes, nous trouverons un encouragement à rester fermement attachés à l'Évangile pour notre salut. Et ça, c'est le principal encouragement que je veux laisser sur vos cœurs ce matin. Restez fermement attachés à l'Évangile pour votre salut, pour notre salut. Alors, il y aura deux parties à cette prédication. Premièrement, l'Évangile, c'est l'annonce du salut en Jésus-Christ, donc, représenter ce qu'est l'Évangile, selon le texte que nous allons lire. Et deuxièmement, l'Évangile, un message à préserver. L'Évangile, c'est l'annonce du salut en Jésus-Christ. L'Évangile est un message à préserver. Alors, une autre manière de résumer ma prédication ce matin serait les trois mots suivants. Un seul Évangile. Un seul Évangile. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1, et je vais lire des versets 1 à 10. Je vais lire dans la version Second 21, si vous suivez dans cette Bible, ici. C'est à la page 762. 762 dans les Bibles Second 21. Épître aux Galates, chapitre 1, verset 1. De la part de Paul, apôtre, établi non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de Dieu, de notre Dieu et Père. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Le texte biblique s'arrête ici. Alors les premiers versets de ce texte, qui sont donc les premiers versets de l'Épître, nous donnent un certain nombre de renseignements qu'il est bon de connaître pour bien comprendre le contexte de l'Épître aux Galates, et le contexte de ce texte en particulier. Nous sommes face à une lettre qui a été envoyée par l'apôtre Paul à des chrétiens qui vivaient en Galatie. Alors, je ne sais pas si vous savez où se trouve la Galatie. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder la carte qui va s'afficher dans un instant. Donc là, sur cette carte qui représente l'étendue de l'Empire romain au 1er siècle, au début du 2e siècle, vous trouvez la Galatie, ici, exactement. Donc, c'est le centre de l'actuelle Turquie, autour de l'actuelle ville d'Ankara. La ville antique d'Ankara a elle-même été évangélisée par Paul à cette époque-là. Cette région, l'apôtre l'a visitée au moins 3 fois. À chaque fois, il y a annoncé l'évangile, fortifié les chrétiens, mais il y a aussi rencontré de l'opposition de la part des juifs, comme souvent dans le Nouveau Testament. Et ça, c'est relaté dans les chapitres 13 à 16 du livre des Actes, auquel je vous renvoie, donc on va bien sûr pas lire ce matin. Comme bien souvent dans le Nouveau Testament, l'opposition juive, oui, ou judaïsante, ce n'était pas proprement juive, mais c'était des personnes qui voulaient continuer à pratiquer la tradition juive. Eh bien, cette opposition était au cœur du problème des chrétiens galates aussi, et nous le verrons prochainement. Remarquez en tout cas la façon dont Paul insiste tout d'abord, pour commencer, sur sa vocation d'apôtre, au verset 1. Il insiste sur le fait que sa vocation vient de Dieu, et en faisant ça, en fait, il légitime son autorité. On pense évidemment à ce qui s'est passé au moment de la conversion de Paul sur la route de Damas. Alors, il y a une image qui montre cela. Alors, on voit pas très bien, parce que c'est sombre, c'est un peu obscur. Ça tombe bien, c'est du Caravage. Alors, il y a tout là. Il y a le cheval. Il y a l'apôtre qui est par terre, la lumière qui descend du ciel. Alors, ce qu'on voit pas sur l'image, c'est la voix du Seigneur qui, à ce moment-là, interpelle Paul et lui dit... Il lui dit quoi ? Pourquoi me persécutes-tu ? Je suis Jésus que tu persécutes. Pourquoi me persécutes-tu ? Donc c'est bien le Seigneur qui a interpellé Paul et qui l'a appelé alors qu'il était en train de persécuter les premiers chrétiens. C'est bien le Seigneur lui-même qui a appelé l'apôtre à son service. Alors, puisque la vocation de Paul est une vocation divine, alors le message annoncé par Paul est aussi un message qui vient de Dieu. On pourrait comparer l'apôtre à un ambassadeur, ou un envoyé, c'est d'ailleurs la signification du mot apôtre, qui porte le message d'une autorité supérieure, c'est-à-dire Dieu en l'occurrence, à des personnes à qui ce message est destiné, c'est-à-dire les Galates en l'occurrence. Les premiers versets du passage sont donc une invitation aux Galates, mais à tous ceux qui lisent, du coup, l'Épître, c'est-à-dire nous, par conséquent, à prendre Paul au sérieux dans ce qu'il va dire. Il parle de la part de Dieu. Et ça nous concerne, évidemment. Si Paul annonce un message de la part de Dieu, alors on a effectivement tout intérêt à écouter un tel message. Alors bien sûr, ce message est d'abord celui de l'Évangile. On est dans la première partie, où on parle de l'annonce de l'Évangile et de l'Évangile en lui-même. ici, le... Excusez-moi. Paul prend la peine de rappeler brièvement le message de l'Évangile au verset 4. C'est ça, je voulais lire le verset 4 avant de continuer, parce que le message de l'Évangile est résumé, en fait, au sein du verset 4. Verset 4 nous dit « Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père. » Voilà, de manière résumée, le message de l'Évangile. C'est un rappel qui est très court, hein, c'est un seul verset. Mais quel verset ? Quel verset ? On aurait tort, je crois, de passer rapidement sur ce verset pour sauter directement à la partie plus problématique du message et du texte que nous avons lu tout à l'heure. On y viendra. En effet, le cœur du problème des Galates est directement lié à un mauvais rapport au message de l'Évangile. Que dit ce message ? C'est dans le verset 4. L'Évangile nous parle en premier lieu du sacrifice de Christ. Ce sacrifice correspond doublement à la volonté de Dieu. Vous voyez cette double volonté dans le verset 4. En effet, Christ s'est donné volontairement, et en faisant cela, il accomplit la volonté du Père. N'est-ce pas merveilleux de considérer que Dieu a réellement voulu nous sauver et qu'il a tout mis en œuvre pour cela? Notre salut n'est pas le fruit du hasard ou de je ne sais quelle coïncidence. Dieu l'a voulu et mis en œuvre volontairement. Dans un langage actuel, on pourrait dire que Dieu a accompli notre salut intentionnellement. C'est un mot un peu à la mode en 2022. Mais il y a de ça, quand même. Dieu a voulu nous sauver. De manière intentionnelle, de manière active. Dieu veut sauver les hommes et les femmes. Pourquoi cela ? Alors nous lisons que Christ s'est donné pour nos péchés. Sous-entendu, pour porter nos péchés. D'autres versions disent pour expier nos péchés. Et pour nous délivrer du monde présent. Ici, le monde fait bien sûr référence au monde des hommes dominés par le péché. Par son sacrifice, Christ nous libère donc de ce monde mauvais. Il nous libère du poids du péché et nous accorde la vie éternelle. Tout ça s'est impliqué par ce que Christ a accompli, sa mort et sa résurrection. En formulant l'évangile de cette manière, Paul introduit un grand thème de cette épître aux Galates, celui de la liberté du croyant en Christ. La liberté du croyant en Christ. On y reviendra bien sûr une prochaine fois. Permettez-moi simplement de citer quelques courts passages du Nouveau Testament qui appuient cette vérité de l'Évangile, de ce que Christ a accompli pour nous et de la liberté qu'il nous a acquise. Jean 3,16, on connaît. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre que Jésus-Christ, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Pierre, l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, au chapitre 2, verset 24, dit « Christ a lui-même porté nos péchés, il a lui-même porté nos péchés dans son corps, à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. » Alors, ce ne sont que 3 exemples, mais le Nouveau Testament en est rempli. Bien sûr, accepter le salut offert par Dieu pour nos péchés implique de reconnaître nos péchés. Ça, c'est le principe de la repentance. Alors, le texte de Galates qu'on a lu ce matin n'aborde pas spécialement cette question, mais d'autres textes bibliques en parlent, et c'est un élément à considérer également. En tout cas, ne passons pas rapidement sur Galates 1, 4. Comme si ce verset n'était qu'une formule qui servait à introduire le reste du sujet. Non, c'est le cœur du sujet. Dans ce verset, nous voyons la gloire de Dieu au travers du sacrifice de Jésus-Christ pour nos péchés. Dieu a tout accompli pour nous sauver. Amen. Ne cessons jamais de louer Dieu pour cela. Alors, à la suite de cela, merci. On aimerait que l'apôtre continue sur la même lancée en exprimant sa reconnaissance pour les Galates, comme il le fera d'ailleurs plus tard pour les Thessaloniciens. On aimerait que Paul nous parle de la foi et de la ferme espérance des Galates, comme il le fera plus tard pour les Colossiens. Ce qu'il fait ? Est-ce que c'est ce qu'il fait ? Non. Hélas, non. C'est pas ce qu'il fait. Bien au contraire, à partir du verset 6, le ton de l'apôtre devient plus solennel, sérieux, grave. En effet, la situation des Galates est elle-même sérieuse et grave. Verset 6. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour vous tourner vers un autre message. Le message de l'évangile annoncé par Paul aux Galates a été entendu. Il a vraisemblablement été reçu par les Galates, mais il a vite été abandonné. Paul s'étonne. Et le mot étonné, d'ailleurs, est un, comme on dit, un euphémisme, c'est-à-dire qu'il est plus faible que ce que c'est réellement. Dans certaines versions, Paul dit « Je suis stupéfait !» Et dans les versions plus anciennes, même du Nouveau Testament, on lit « Je suis ébahi !» Il n'en revient pas. Il ne revient pas que ces Galates qui avaient reçu l'Évangile au moment de sa visite, qui s'étaient convertis, qui avaient reçu le Saint-Esprit, aujourd'hui, abandonne l'Évangile pour autre chose. On peut, je crois, établir un parallèle entre ce verset et la parabole du semeur en Matthieu 13. Alors, je ne vais pas la relire en détail, mais dans cette parabole, Jésus compare la parole du royaume à une semence. On voit que la semence qui tombe dans un mauvais sol ne pousse pas. Ou alors, si elle pousse, elle peut germer et pousser un peu. Elle ne tient pas. Il me semble qu'il y a un peu de ça dans la situation des Galates. Ils ont manifestement reçu l'évangile que leur a annoncé Paul. Ils ont aussi reçu le Saint-Esprit. Donc. Ça, on peut le lire plus loin dans le titre. Mais rapidement, ils ont été séduits et cela les a conduits à abandonner le véritable évangile. Pour un autre évangile. Mais ce que Paul dit au verset 7, ce qu'il affirme, c'est que cet autre évangile n'en est pas un. En effet, l'évangile cesse d'être l'évangile à partir du moment où on y ajoute, où on y enlève quelque chose. Je suis pas un grand expert de chimie. Je laisse ça aux ingénieurs parmi vous. La physique non plus d'ailleurs. Mais du peu que je sais, une molécule n'est plus ce qu'elle est à partir du moment où on en change la composition chimique. Alors, si tant est que ce soit possible, mais si on enlevait un atome d'hydrogène à la molécule d'eau, H2O, et qu'on la remplace par un atome de carbone, plus de molécule d'eau. Ou alors, une eau un peu spéciale, pas forcément très bonne à boire. En tout cas, c'est plus une molécule d'eau, H2O. Elle a changé, donc elle n'est plus ce qu'elle est. Si les Galates ont abandonné l'Évangile, c'est qu'ils y ont ajouté des doctrines et des pratiques qui n'en font pas partie. On développera ça en détail une prochaine fois, mais retenons que dans les églises de Galatie se trouvaient des personnes qui ne se contentaient pas du simple message de l'Évangile et qui ajoutaient des pratiques juives. Ce n'était donc plus l'Évangile de Jésus-Christ, l'Évangile de grâce et de salut en Jésus-Christ. Si les églises de Galatie étaient concernées par de tels travers, ayons l'humilité de croire que nous le sommes aussi. Dans notre église, ici à Cavaillon, nous affirmons que nous croyons à l'Évangile, nous cherchons à suivre Christ. Nous l'affirmons dimanche après dimanche, et nous voulons le vivre chaque jour. Nous voulons que l'Évangile reste toujours au cœur de nos vies chrétiennes et de notre vie d'Église. C'est d'ailleurs le sens de notre confession de foi. N'oublions pas cependant d'examiner nos cœurs régulièrement. Est-ce que je crois toujours que l'œuvre de Christ est pleinement suffisante pour mon salut? Ou est-ce que j'y ajoute, est-ce que j'y enlève des choses à croire ou à pratiquer? Est-ce que je ne suis pas moi aussi tenté de déformer le message de l'Évangile? Je vais être plus concret. Dans certains milieux chrétiens, on estime que pour être vraiment spirituel, il faut vivre une expérience particulière avec Dieu, connaître une sorte de super révélation. L'Évangile, c'est bien, mais si on vit une expérience spirituelle en plus, pour notre salut, c'est quand même mieux. Sans une telle expérience, le salut du croyant n'est même pas vraiment assuré, pense-t-on. Tomber dans ce travers, c'est déformer l'Évangile. À l'inverse, dans d'autres milieux chrétiens, on met un accent excessif sur la pratique des disciplines spirituelles, la prière, la lecture, l'étude, pour le salut, au point qu'elles deviennent parfois une condition au salut. C'est vrai que ces pratiques sont essentielles. Dans notre Église, d'ailleurs, on a l'habitude de nous encourager à tout ça, et on a raison de le faire. Ces pratiques sont vitales pour tout chrétien, progresser dans la vie chrétienne. Mais encore faut-il pratiquer tout ça dans un esprit d'humilité et de dépendance à Dieu, sans chercher à compléter ou diminuer ce que Christ a lui-même accompli pour nous à la croix. Tout est accompli, a dit Christ à la croix. Si nous tombons dans ce travers, alors nous déformons aussi l'Évangile. De la même façon, il est très important d'apprendre à suivre Christ sur le chemin qu'il a emprunté, qui est un chemin étroit, nous le savons. Il est important d'apprendre à porter nous-mêmes notre croix. Jésus en parle, il nous laisse un exemple parfait à ce sujet. Veillons seulement à ne pas oublier que Christ nous a aimés le premier et a tout accompli en donnant sa vie pour nous. Si nous oublions cela, nous aurons beau tenter de porter notre croix, nous n'en déformerons pas moins l'Évangile. Que l'Évangile soit pour nous comme un garde-fou qui nous préserve soit d'une spiritualité sans fondement solide, soit du légalisme. Dans les deux cas, il s'agit de dérives qui déforment l'Évangile et le vide de sa substance. Les versets 8 à 10 comportent une mise en garde saisissante. Dans ces deux versets, Paul se met en colère. Pardonnez-moi l'expression, mais il est vénère. Et pas qu'un peu. Paul se met en colère et lance une double parole de malédiction à l'encontre des personnes qui prêchent un message différent de l'Évangile. De tels mots montrent d'ailleurs que Paul ne cherche pas à plaire à des hommes comme ses opposants pouvaient le lui reprocher. C'est le sens du verset 10. Ses opposants ne sont pas nommés, d'ailleurs, ils ne le sont jamais dans l'Épître aux Galates. Mais le problème n'est pas tant qui ils sont que ce qu'ils font. Annoncer un message différent et déformer, encore une fois, l'Évangile de Jésus-Christ. C'est quelque chose de particulièrement grave, hein. Et cette double parole de malédiction, deux fois, il la répète, Paul. Ça en témoigne de cette gravité. Encore une fois, nous sommes tous potentiellement concernés par cela, notamment quand nous interagissons avec nos frères et sœurs ou quand nous témoignons autour de nous. Néanmoins, je dois reconnaître que le reproche de Paul s'adresse d'abord à ceux qui enseignent et prêchent dans l'Église. Ça me concerne donc en tant que prédicateur, concerne tous ceux qui prêchent dans notre Église. Certes, nous pouvons nous tromper, car nous restons des hommes faillibles et dépendants de la grâce de Dieu. Néanmoins, que Dieu nous garde de trahir le message de l'Évangile. Le fondement de notre foi, c'est Jésus-Christ et son œuvre parfaite à la croix. Assurons-nous que ce fondement soit bien en place, avant de bâtir avec le reste. Alors, il est temps de conclure. Pour cela, je souhaite très simplement rappeler les deux parties du message. C'est affiché, vous pouvez le lire. L'Évangile, c'est l'annonce du salut en Jésus-Christ. Louons Dieu, vraiment, louons Dieu et bénissons-le, car il a tout accompli en Christ pour notre salut. Mais l'Évangile est aussi un message à préserver. Par grâce, Dieu a voulu nous sauver en envoyant le Seigneur Jésus donner sa vie pour nos péchés. Nous croyons que Dieu veut encore faire ça en 2022. Est-ce qu'on le croit ? Vous le croyez ? Amen. Moi aussi, je le crois. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, verset 4, nous le dit. Notre Dieu est puissant. Il n'est pas limité dans les moyens dont il dispose pour sauver les âmes. Il pourrait tout à fait, il aurait pu tout à fait, lancer son grand plan de salut et de rédemption, sans nous, en tout cas en nous laissant de côté de l'équation, mais non. Dans son plan, il a prévu que ça passe aussi par nous et par le fait de communiquer sa parole, de communiquer le message de l'Évangile. Même si c'est Dieu qui sauve, évidemment, au final. Mais nous avons un rôle à jouer là-dedans. Alors, dans cette perspective, et puisque nous ne sommes pas meilleurs que les Galates du 1er siècle, restons attachés au seul Évangile qui soit et préservons l'intégrité de son message pour le salut des âmes et pour la gloire de Dieu. Amen. Je vais prier. Oui, Dieu et Père, nos cœurs débordent de reconnaissance. Ils débordent de reconnaissance pour ton plan de salut. Nous sommes reconnaissants et nous voulons te dire merci, notre Dieu, d'avoir voulu nous sauver. Merci, Seigneur. Merci d'avoir envoyé Christ, Jésus-Christ, ton Fils, accomplir et mettre en œuvre ce plan de salut à la perfection, comme aucun autre homme aurait pu le faire. Merci, Seigneur Jésus, d'être allé jusqu'au bout, d'avoir porté nos péchés, d'avoir expié nos péchés, de nous avoir ôtés devant la face de Dieu. Que nous soyons réconciliés avec Dieu et que nous en soyons libérés. Nous te louons et nous te bénissons, Père Céleste, pour cela, et nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour cela. Seigneur, tu vois combien nous sommes faibles, et tu vois combien, malheureusement, nous sommes facilement séduits. Tu vois combien nous sommes oublieux aussi, et combien on a tendance à vouloir mériter notre salut par orgueil aussi. Nous reconnaissons tout ça, Seigneur. Te demandons pardon pour tout ça. Et Seigneur, nous avons besoin vraiment de ton aide pour rester attachés à ton Évangile. Rester attachés à cette bonne nouvelle. Seigneur, nous voulons progresser dans la vie chrétienne, oui, c'est vrai, avec tout ce que tu mets à notre disposition dans ta grâce. Nous voulons progresser mais Seigneur, toujours sur le fondement que tu as toi-même placé, à savoir ton évangile. Garde-nous de le déformer, garde-nous de le changer, de l'altérer, et que nous puissions le préserver. Nous en remettons à toi, Seigneur, pleinement. Et merci pour cette épître aux Galates. Merci pour tout ce que tu vas, dans ta grâce, nous rappeler au travers de cette épître. Et voilà, Seigneur, nous te louons et nous te bénissons ensemble ce matin. Entendons-nous.